Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi de 15h à 16h. Comme tous les jours, dès 15h, je suis dans ce studio avec le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, on va s'intéresser à un cauchemar féminin, la cystite. En France, toutes les 30 secondes, une femme déclare une infection urinaire et parfois en plus, ce mal revient régulièrement. Et c'est tout simplement un enfer, il faut dire ce qui est. Alors aujourd'hui, on va vous aider à mieux comprendre votre anatomie, les périodes et les situations à risque. Et surtout, on va vous livrer quelques-unes des clés pour mieux prévenir les crises. Pour nous aider dans cette mission, nous recevrons le docteur Jean-Marc Bobot. Il est infectiologue, médecin infectiologue, spécialiste des infections génito-urinaires à l'Institut Fournier de Paris. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, on va parler des sinus. Savez-vous ce que c'est concrètement, où ils sont situés, pourquoi ils se bougent parfois? Le docteur Jimmy Mohamed fera le point. Et enfin, vers 15h50, nous retrouverons la chronique sexo de Catherine Blanc. Aujourd'hui, elle va nous décrypter cette tendance pratiquée par certains couples de réaliser des vidéos de leurs rapports sexuels.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc aujourd'hui, on va prendre cette question pour démarrer, cette question de Mireille. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie et Jimmy. Voilà, je vais avoir 55 ans, j'ai des rides, ce qui est normal, mais il y en a deux qui m'insupportent, elles sont au-dessus de la lèvre, à la verticale. Donc je me pose la question de les faire enlever, voir un chirurgien esthétique. J'aimerais bien avoir vos conseils. Merci et félicitations pour votre émission pleine d'humour.
Merci beaucoup Mireille, c'est très gentil. Alors Jimmy, les rides, on va vous laisser tranquille.
Hein, ah mais si, voilà. J'ai eu un petit moment d'angoisse, je me suis dit oula.
Non, on a préféré appeler une spécialiste du sujet, le docteur Catherine Bergeret-Gallet, elle est chirurgienne plastique et esthétique à Paris.
Alors pour cette dame qui s'appelle Mireille et qui a une demande d'enlever les rides au niveau de la lèvre supérieure, s'il s'agit que de deux petites rides, on a plusieurs moyens. Moyens médicaux, c'est injecter avec de l'acide hyaluronique, donc combler la ride, et éventuellement faire un peeling léger, c'est-à-dire on recouvre la peau avec un acide stabilisé et tamponné, ce qui permet d'entraîner une exfoliation, c'est comme si on voulait forcer la peau à se régénérer. Et à ce moment-là, ça permet d'atténuer le creux. Ce sont les traitements médicaux. Traitements chirurgicaux, on peut à ce moment-là aller au bloc opératoire si c'est trop prononcé. Il y a des femmes qui ont des vrais côtes-barres au niveau de la lèvre supérieure, surtout celles qui fument. À ce moment-là, on peut diminuer l'effet de plisser vertical de la lèvre supérieure en faisant une dermabrasion sous une sédation, ce qui permet d'enlever la couche superficielle de l'épiderme. Et ensuite, après, on pourra faire du comblement, soit avec de la graisse, votre propre graisse, soit avec un acide hyaluronique de comblement.
Voilà, c'était le docteur Bergeret-Gallet au micro de Barbara Silvera Sonigo. Alors à présent, Jimmy, on va prendre une seconde question pour vous. Celle-ci, vraiment, écoutez bien, c'est la question de Marie.
Bonjour, je suis Marie. J'aimerais, s'il vous plaît, poser une question à Mélanie et au docteur Jimmy Mohamed. Voilà, je vais me faire vacciner contre le Covid et je dois avoir une IRM où on doit m'injecter un produit de contraste, Dotarem 15. Et j'aimerais savoir s'il n'y a pas de problème à quelques jours d'intervalle d'avoir et le vaccin, la première injection, et le produit injecté de contraste. Je vous remercie beaucoup.
Bon, Jimmy, une question assez précise donc de Marie. Un vaccin Covid et une injection de produit de contraste, donc là pour une IRM, dans un intervalle rapproché, est-ce que ça pose problème?
Absolument aucun. Allez faire votre IRM, ne repoussez pas vos chances en cette période.
Ni le vaccin d'ailleurs.
Exactement,
hein,
et ni le vaccin. La seule chose qu'on évite, c'est lorsqu'on est vacciné, c'est d'avoir eu une autre vaccination dans les 3 semaines qui précèdent. Et ça, c'est ce qu'on vous pose comme question lors de l'interrogatoire. Mais en ce qui concerne l'IRM, le produit de contraste ou n'importe quelle intervention, allez-y.
Alors, on a énormément de questions sur les vaccins Covid et leurs éventuelles contre-indications en ce moment, et c'est bien normal. Il y a des médicaments qu'on peut prendre pour autre chose, ça revient souvent dans les questions, qui ne font pas bon ménage avec cette vaccination. Là, elle nous parlait d'un produit contraste qui n'est pas un médicament, mais est-ce qu'il y a des médicaments qu'il faut arrêter avant de se faire vacciner?
D'une façon générale, n'arrêtez jamais vos traitements avec
tout
ou sans
seul,
vaccination.
Tout seul, déjà, jamais, sans avis médical.
Et pour le vaccin contre le Covid, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions pour un vaccin qui est finalement assez simple et assez classique, et donc n'arrêtez pas vos traitements, il n'y a aucune interaction. La seule chose, c'est certains patients vont avoir des traitements très particuliers avec des immunoglobulines, et dans ces cas-là, il faut respecter un intervalle entre l'injection d'immunoglobulines et la vaccination. Mais là, c'est le médecin spécialiste qui vous en réfère et qui vous dit attention, si possible, au bout de 15 jours. Mais pour le reste, la hypertension, le diabète, le cholestérol, tout
ce
que vous
voulez, maladies chroniques assez fréquentes,
vacciner,
on va dire.
C'est la seule façon de se protéger.
Alors j'en profite parce qu'on a reçu plusieurs questions sur les antécédents de thrombose aussi et le vaccin AstraZeneca. Comme ça, on va répondre à tout le monde un petit peu en vrac, on va dire. On a eu Marina qui nous a demandé qu'il y a eu une phlébite après une intervention il y a 2 ans, qui demande si elle peut se faire vacciner. Denis qui parle d'un antécédent d'AVC. Ces gens-là qui ont plus de 55 ans, ils peuvent le faire ce vaccin malgré leurs antécédents?
Ils peuvent le faire, mais on n'a pas exactement la réponse. On ne sait pas exactement quel risque supplémentaire ils encourent avec la vaccination. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'avec l'AstraZeneca, vous avez un risque de thrombose de 1 pour 1 million. C'est quasiment autant que d'être frappé par la foudre.
Ouais.
Et à l'inverse, si jamais vous avez le coronavirus et que vous avez plus de 65 ans, eh bien vous avez une chance sur 100 d'en décéder. Donc ça vous permet un peu de remettre les choses en perspective. Et puis lorsque vous êtes tabagique pendant plus de 20 ans, eh bien vous avez une chance sur 10 de mourir du cancer du poumon. Donc tout ça pour vous dire que certes, il y a des risques par rapport à la vaccination, mais les bénéfices sont tellement importants que je pense non pas qu'on va ne pas les considérer, mais de se dire qu'il faut y aller. Et encore une fois, je ne minimise pas les thromboses qui vont survenir, car c'est des accidents terribles. Mais encore une fois, c'est malheureusement des effets secondaires qui sont probablement attendus.
Cette balance bénéfice-risque hein, qui reste supérieure sur
moi,
le bénéfice.
Moi, j'en informe le patient. Ouais. Voilà le bénéfice, voilà le risque. Libre à vous de vous faire vacciner. Il n'y a aucune injonction.
C'est pas obligatoire.
Mais c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Et d'ailleurs, le vaccin protège des vies et sauve des vies. On le voit notamment en Angleterre ou en Israël. La campagne de vaccination a marché et les gens retrouvent une vie en plus de ne plus tomber malade.
Très bien. Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, aucune hésitation.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé, Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h, hein, bien sûr. C'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Jean-Marc Bobot. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes médecin infectiologue, spécialiste des infections génito-urinaires à l'Institut Fournier de Paris. Vous êtes également le co-auteur avec la journaliste Rika Etienne du livre La cystite, le cauchemar au féminin, qui est paru donc aux éditions Flammarion. Alors, en préambule de ce livre, hein, d'abord, qui s'adresse uniquement aux femmes, est-ce à dire que les hommes ne sont pas du tout concernés quand même?
On a coutume de dire que les infections urinaires, ça n'existe pas chez l'homme. En fait, bien sûr que les hommes peuvent avoir des infections au niveau des urines, mais généralement, ce n'est pas une infection de la vessie, c'est une infection de la prostate. Donc, les vraies cystites sont exceptionnelles chez l'homme et c'est plutôt un problème féminin au quotidien, malheureusement.
Alors, cet après-midi, on va se concentrer justement sur les cystites chez la femme. Et vous dites, dès l'introduction, que la cystite, c'est quand même une affaire de couple. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Alors d'abord, comme l'a dit Mélanie, ce n'est pas une infection sexuellement transmissible, c'est certain. Mais il y a énormément de femmes qui sont atteintes de cystite qui se déclenchent quelques heures ou quelques jours après les rapports sexuels. Ce qui fait que ça gâche complètement la vie de la femme et puis la vie du partenaire aussi, dans la mesure où effectivement la femme va à terme espacer les rapports sexuels, voire les arrêter, parce qu'après chaque rapport, quand il y a une cystite qui se déclenche, ça devient invivable pour le couple.
Bien sûr. Et ça touche donc une femme toutes les 30 secondes en France. Un chiffre effroyable, hein, c'est incroyable. Des femmes, est-ce que ce sont des femmes qui sont dans une tranche d'âge en particulier?
Alors, toutes les femmes peuvent être atteintes, quel que soit l'âge, y compris chez les petites filles d'ailleurs. Hein. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a deux pics qu'on remarque au cours de la vie des femmes. C'est au début de la vie sexuelle. C'est aux alentours de 20
17,
ans.
18, enfin, 17, 20 ans.
18, 20
ouais.
ans. Et puis, au moment de la ménopause, après la ménopause, où là, alors pour des raisons fondamentalement différentes, hein, ce n'est pas du tout les mêmes causes qui produisent les mêmes effets, mais il y a deux pics, c'est au début de la vie sexuelle et chez la femme ménopausée.
Mais à tout âge, on peut malgré tout avoir
absolument.
Une cystite.
Oui.
Alors vous dites dès les premières lignes, et je suis sûr que ça va rassurer un bon nombre d'auditrices, que dans la cystite, nous sommes à l'aube d'une révolution. Enfin, pour les cystites récidivantes, est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Jusqu'à maintenant, la seule réponse qu'on pouvait donner aux femmes, et qui parfois malheureusement continue à justifier, c'est la prise d'antibiotiques pendant des mois et des mois. Maintenant, on commence à déchiffrer davantage ce qui est le mécanisme des cystites, ou les mécanismes des cystites, parce qu'il n'y a pas un mécanisme particulier. Et en fait, on met l'accent sur un certain nombre de sujets qui sont les déséquilibres des microbiotes. Alors, les microbiotes, c'est très à la mode. On a parlé du microbiote intestinal, mais il y a le microbiote vaginal. Maintenant, on sait que la vessie, il y a un microbiote aussi. Donc, la prise en compte de tous ces déséquilibres, toutes les petites bêtes qui nous habitent, on sait que c'est une manière de pouvoir gérer les situations.
Donc, des petites bêtes, il y en a partout. On croyait qu'il n'y en avait que dans les intestins, ça on commence à comprendre, mais en fait, on est habité de bestioles et de bactéries, surtout dans
absolument.
Tout notre corps, quasiment. Hein, d'accord.
Et donc, effectivement, au niveau de la vessie, pendant très longtemps, on a dit que les urines devaient être stériles. Ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de bactéries qui existent à l'état normal dans la vessie et qui, d'ailleurs, sont assez similaires à celles qu'on retrouve dans le vagin. C'est pour ça que il y a une prise en charge particulière.
Ça veut dire que toutes ces bébêtes, toutes ces bactéries dont on parle, tous ces microbiotes, puisqu'il y en a plusieurs dans l'organisme, ben c'est de là finalement les attaques, la cystite finalement, elles peuvent venir d'un peu partout de notre corps, quoi.
Effectivement. Donc les bactéries qui sont impliquées dans la cystite, ça s'appelle essentiellement le Escherichia coli, le colibacille. Comme son nom l'indique, ça vient du côlon. Et donc la première des choses à chercher, c'est si par hasard il n'y a pas un déséquilibre du microbiote intestinal. Mais ce colibacille, avant d'arriver dans la vessie, il transite par le vagin. Donc s'il y a un déséquilibre au niveau du vagin, au niveau du microbiote, ben là aussi il y a un risque d'infection. Si la vessie est irritée pour X raisons, il y a un déséquilibre du microbiote vésical, donc ça peut venir de partout, vous avez parfaitement raison, et il faut chercher le partout.
C'est ça, c'est pas facile.
Et genre, parce qu'on explique aux femmes, lorsqu'elles ont une infection urinaire à Escherichia coli, c'est une bactérie qu'on trouve normalement dans le tube digestif, mais dans votre livre, vous dites qu'on en a quand même un petit peu dans la vessie, mais en quantité finalement pas si importante, et qu'on a des armes pour lutter contre ça.
Exactement. On a pu démontrer que le microbiote de la vessie, le microbiote normal, c'est-à-dire qui est présent chez toutes les femmes saines, ça contient des bactéries qui sont des bonnes bactéries, comme les lactobacilles. Bacilles, c'est ce qu'on retrouve dans le vagin et c'est les mêmes souches que dans le vagin et on retrouve aussi du colibacille en très petite quantité. Le problème, c'est que tout ça, c'est un équilibre. Si l'équilibre est rompu par X raisons, on pourra en reparler tout à l'heure, ben évidemment, les colibacilles vont profiter de la vacance du pouvoir, si j'ose dire, et vont se développer et provoquer une infection.
Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, la cystite, vous l'avez dit tout à l'heure, chez de nombreuses femmes, ça peut avoir un impact dans le couple, dans la vie sexuelle, ça, on l'a compris, par sa fréquence, les femmes ont peur après de retourner, d'avoir des rapports sexuels, parce que souvent ça arrive après, mais ça peut avoir un impact, je veux dire, global, sur toute la qualité de vie et même sur la vie professionnelle, expliquez-nous.
Bah oui, ce sont des femmes qui... d'abord, la cystite, c'est extrêmement douloureux, c'est très invalidant et c'est quelque chose qui atteint énormément le moral des femmes. Sans compter que quand on est au travail, avoir une cystite, ça veut dire aller uriner toutes les 3 minutes, ce qui n'est pas très compatible avec le travail, même s'il y a de plus en plus de télétravail.
Et puis un inconfort, même quand on est à son bureau,
exactement,
on n'est pas bien.
Voilà, on a mal. Donc, ouais. Et il y a des études qui ont été faites et qui ont montré qu'effectivement, chez beaucoup de femmes, il y a un impact de cystite sur la qualité de vie et sur la qualité du travail, parce qu'elles ne peuvent pas se concentrer. Quand on a mal, on ne se concentre pas. Et puis, on peut même avoir des phénomènes d'agressivité vis-à-vis des gens avec qui on est, parce que quand on a mal, on est un peu agressif, c'est normal.
Il y a aussi des témoignages de femmes dans votre livre, et celui de Manon qui est très marquant pour illustrer ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Manon, alors j'ai changé le nom,
bien sûr,
c'est une de mes patientes. Donc c'est une femme qui, une femme jeune qui a moins de 30 ans et qui est vendeuse dans un magasin de maroquinerie et qui est en CDD. Et donc elle a l'espoir de passer en CDI et malheureusement elle enchaîne cystite sur cystite. Or, quand on est vendeuse, c'est assez mal vu d'être obligé de s'absenter toutes les 3 minutes pour aller aux toilettes, d'avoir mal, de ne pas forcément être très aimable avec les patients, avec les clients, parce qu'on a mal. Donc, je l'ai récupérée en catastrophe parce qu'elle prenait antibiotiques sur antibiotiques, ça ne passait pas. Et surtout, elle était angoissée. Elle était extrêmement stressée parce qu'elle sentait que même si sa patronne avait été relativement conciliante jusqu'à maintenant, elle commençait à lui dire c'est pas tellement un métier pour vous parce que si vous arrêtez.
Le CDI, il n'est pas pour vous, quoi, en gros. Hein, ouais.
Donc, elle est venue voir complètement stressée. Donc là, il y a 2 problèmes. C'est qu'il va falloir effectivement savoir pourquoi elle fait des cystites et puis comprendre que le stress, c'est quelque chose qui majore le risque de cystite. Alors, il ne faut pas le dire comme ça aux femmes, parce que ça veut dire c'est bien fait pour vous, vous êtes stressé, vous faites des cystites. Mais il faut leur expliquer pourquoi le stress est un facteur aggravant. Et ça, on pourra en reparler si vous voulez.
Alors, pour celles qui croient, qui prennent ce problème comme une fatalité finalement, chez elles, c'est des cystites de mère en fille, souvent, on entend ça. C'est, une fois pour toutes, on va le dire, est-ce que c'est génétique la cystite ? Est-ce que c'est familial ? Est-ce que si ma mère en a eu, forcément, je vais vivre ce calvaire ?
Non, pas du tout. C'est simplement une constatation épidémiologique. C'est qu'effectivement, comme vous l'avez dit, c'est une infection qui est extrêmement fréquente chez les femmes. Et donc, il est pas exceptionnel d'avoir une mère, une sœur, une tante qui a eu le même problème que vous. Mais ce n'est pas génétique.
Et ça sera pas non plus aux toilettes. C'est souvent une idée reçue en disant « je vais m'asseoir sur les toilettes sales, donc je
ma
ne vais pas aux toilettes ».
Ma mère disait toujours ça « ne t'assois jamais, tu vas attraper des cystites ». C'est ça.
Oui, alors le problème, c'est que non seulement on n'attrape pas des cystites en s'asseyant pas, mais quand on ne s'assied pas, on n'a pas une vidange complète de la vessie. Ah. Et donc, il faut se détendre pour uriner. Et quand on est en équilibre pour uriner, ça ne le fait pas.
Ah. Ah, d'accord, donc vraiment s'asseoir c'est important aussi pour
bien
ça.
Sûr, quoi. Je l'avais dit, Mélanie, vous voulez pas m'écouter.
Moi j'ai toujours levé les fesses, on va appeler ça depuis toute petite.
Les toilettes de repas sont très propres en plus.
Heureusement, on s'y assoit volontiers. Merci beaucoup, docteur Bobotte. Nous allons poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien avec nous.
Sans rendez-vous,
15h, 16h sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, il est toujours en studio avec nous, c'est vous, docteur Jean-Marc Bobotte. Vous êtes médecin, infectiologue, spécialiste des infections génito-urinaires à l'Institut Fournier de Paris. Et vous êtes également le co-auteur du livre La cystite, le cauchemar au féminin, qui est paru donc aux éditions Flammarion. Alors je l'ai évoqué juste avant, mais moi franchement j'ai appris ça en le lisant. Je savais très bien, on sait tous que le tabac... c'est une catastrophe, c'est un poison pour le cancer, pour le cœur, enfin pour tout. Mais ça peut favoriser les cystites. Alors, on comprend ça au travers du témoignage de Luna dans votre bouquin. Racontez-nous ça.
Oui, le tabac, c'est quelque chose qui est un vrai poison. Et c'est un vrai poison à plusieurs titres. C'est d'une part, les femmes qui fument ont moins d'hormones féminines dans le sang. Donc elles ont moins d'estrogène. Alors l'estrogène, c'est carrément le carburant des défenses au niveau du vagin et de la vessie. Et puis d'autre part, on retrouve à l'intérieur de la vessie des débris de nicotine, c'est-à-dire de la cotinine, etc. Et donc ça, c'est des produits extrêmement toxiques pour le vagin et la vessie. Et donc un certain nombre de femmes, dont Luna, nous expliquent que son travail, elle fume. Et puis comme son copain, il n'aime pas tellement le tabac, quand elle est en vacances, elle ne fume plus. Et paradoxalement, elle a beaucoup moins de cystites. Donc, elle s'est quand même elle-même posé la question. Et donc, effectivement, on lui a confirmé que le tabac, c'était l'ennemi numéro un. Et on a même démontré, il y a une étude australienne qui a démontré qu'en ce qui concerne les infections vaginales, à partir de 4 cigarettes par jour, on a un risque augmenté de faire des infections vaginales. Incroyable. Donc, c'est stop tabac. Et puis, on peut complémenter avec des probiotiques pour relancer la machine. Mais c'est vrai que c'est un ennemi qui est complètement caché et qui n'est pas connu ni par les femmes, ni malheureusement par certains médecins.
Mais attendez, vous avez des femmes qui arrêteraient de fumer pour des cystites et pas spécialement pour un infarctus ou un cancer du poumon. C'est-à-dire qu'on serait plus inquiet de la cystite que de maladies plus graves. Ça veut dire que finalement l'impact est vraiment majeur sur la vie quotidienne des femmes.
Bien sûr, c'est-à-dire que une femme qui a 25 ans et qui enchaîne les cystites, elle pense pas à l'infarctus qui risque d'arriver. Non. Mais par contre, quand on lui dit, vous savez, si vous arrêtez de fumer,
j'ai ça bien dit. Ça donne un argument en consultation de Jimmy pour les motiver les jeunes femmes.
Moi, médecin généraliste, je ne le savais pas. Donc voilà, grâce à vous, ça sera un argument.
Donc il faut bien expliquer que c'est pas diminuer la cigarette, c'est arrêter de fumer et même le vapotage. À partir du moment où on commence à utiliser des substituts,
c'est de la nicotine.
La nicotine, on a les mêmes effets. Donc, c'est stop tabac. Et si on a des difficultés, parce que c'est quand même une drogue, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin spécialisé pour ça.
Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, lors des rapports sexuels, on peut avoir une cystite, même si ce n'est pas une infection sexuellement transmissible. Mais est-ce que ça marche aussi avec des sextoys ou lors d'un plaisir solitaire, on peut aussi attraper une cystite?
Oui, bien sûr, tout simplement parce que l'anatomie féminine est remarquable. Mais enfin, il y a quelques petits défauts.
dites-nous.
Et le problème, c'est qu'effectivement, l'orifice du vagin se trouve à 1,5 cm, 2 cm de l'orifice urinaire. Ouais. Et donc, on comprend bien que s'il y a un certain nombre de bactéries comme les colibacilles qui se sont développées dans le vagin, parce que le vagin est un peu déséquilibré ou autre, lors du rapport sexuel, les mouvements soit du sexe du partenaire...
En fait, c'est une cause mécanique, c'est pas ces messieurs ne sont pas du tout en cause, on est d'accord.
Non, ni le sextoy.
Oui, bien sûr.
Et effectivement, il y a des femmes qui disent, à ce moment-là, il va mettre un préservatif, ça va aller mieux. Ça ne change rien, parce que les colibacilles...
C'est le va-et-vient qui va amener les bactéries qui sont peut-être près de l'anus, on va dire, jusqu'à...
Alors, c'est vrai qu'il est démontré qu'il y a certaines positions des rapports sexuels...
on veut les détails, c'est quoi les bonnes positions alors.
Je ne sais pas si je peux le dire à l'antenne, il faut bien comprendre que la classique position du missionnaire, c'est la pire. Alors que la levrette, pardonnez-moi, mais on regarde, on ne va pas faire la démonstration.
On n'a pas de tabou dans cette émission, honnêtement, c'est technique et ça évite les cystites peut-être.
Et donc
alors,
limite effectivement pour des raisons balistiques, c'est-à-dire qu'effectivement là, le sexe du partenaire ne va pas directement en contact avec le méa urinaire. Alors ça ne résout pas tout,
mais
ça permet de mettre
astuce.
Un peu de piment dans la vie sexuelle aussi.
C'est la meilleure punchline de l'année, la levrette limite le risque de cystite. Franchement, c'est surréaliste.
Écoutez, c'est pratique et c'est génial et on est là pour ça.
C'est du quotidien. Est-ce que vous avez d'autres conseils? Certains disent qu'il faut uriner après le rapport sexuel, est-ce que ça marche vraiment?
Alors, ça marche, on va pas casser des idées reçues comme ça, mais c'est vrai que c'est pas top. Donc déjà, c'est pas d'un érotisme torride de se précipiter pour aller uriner après le rapport.
Mais est-ce que ça a une utilité? Parce qu'à la limite, que ce soit torride une fois que c'est fini, on s'en fout.
Il faut reconnaître que ça a une indication très 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 limitée en matière de prévention.
On dit que ça permet d'éliminer les éventuelles bactéries qui commencent à remonter dans le méa urinaire.
Il faut bien comprendre que, de toute façon, quand une femme fait des cystites récidivantes, il y a du colibacille en permanence dans la dans la vessie. Et donc simplement, les facteurs d'irritation du rapport sexuel peuvent augmenter, diminuer les défenses locales. Donc aller uriner, ça va éliminer une petite quantité de colibacilles. Ouais, c'est vraiment pas ça qui va résoudre les problèmes. Mais bon.
On peut rester couché, faites des câlins, c'est voilà, pas grave, ça sert exactement. À rien de se précipiter aux toilettes. Alors on va revenir, docteur, à notre anatomie. D'ailleurs, il y a ce chapitre dans votre livre que vous intitulez Anatomie d'une merveille. Oui, vous parlez bien de la vessie. Moi, ça m'a un peu surpris. Je pensais que la vessie, c'était une poche qui se vide et qui se remplit. Mais non, en fait, c'est bien plus sophistiqué que ça, avec notamment une paroi millefeuille. Alors, j'avais jamais vu les choses comme ça.
Oui, d'abord, il y a plusieurs couches de cellules dans la paroi de la vessie. Et puis surtout, cette vessie, elle est truffée de capteurs. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est quelque chose qu'on connaît depuis assez peu de temps.
La vessie 2.0, la vessie intelligente. Quoi.
Exactement. La vessie, elle est en contact permanent avec le cerveau.
Incroyable.
Et donc, le cerveau, il est en permanence informé du remplissage de la vessie. Donc, à certains moments, le cerveau, il se dit, ça va, on a encore le temps. À certains moments, effectivement, quand la vessie commence à se remplir un petit peu, le cerveau, il commence à dire, à alerter la femme
aller,
en disant,
là.
Peut-être falloir y aller. Et puis, à certains moments, effectivement, comme la femme, si la femme n'y va pas, le cerveau, il va agir sur la vessie pour empêcher qu'elle se vide. Donc, il va augmenter la tonicité du muscle de la vessie, il va renforcer le sphincter de la vessie, c'est-à-dire le muscle qui ferme la vessie. Et c'est le fameux syndrome de la clé dans la serrure. Quand on arrive chez soi, on s'est bien retenu d'uriner.
Ah oui, moi, c'est systématique. Hein. J'ai l'envie de pipi qui arrive dès que je suis devant la porte.
Oui, tout simplement parce que le cerveau qui est conscient, il sait que là, on va arriver dans une zone de confort, etc. Alors là, leur vie, elle devient extraordinaire et il faut vraiment se précipiter.
Et si on ne trouve pas les clés, c'est une cata.
Donc, il y a une discussion constante entre le cerveau conscient et la vessie. Et donc, bien sûr qu'on ne participe pas à l'échange, mais il existe bien réellement.
Incroyable.
Et cette vessie, elle est tellement réactive qu'elle peut même jouer un rôle dans le degré de plaisir sexuel.
Vous revenez toujours à la sexualité, Jimmy. Non, c'est incroyable.
Mais j'ai lu un truc extraordinaire dans votre livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter ?
Oui. Alors, y a, effectivement, c'est une mode qui vient des États-Unis. Plus exactement, c'est un homme qui a posté sur les réseaux sociaux le fait que quand il faisait l'amour avec sa femme, qui avait la vessie pleine, elle prenait beaucoup plus de plaisir, elle avait des orgasmes gigantesques.
Incroyable.
Et donc, il a posté ça sur les réseaux sociaux, alors c'est devenu
c'est
une
vrai
mode.
Ou pas alors
Et y a certaines femmes qui nous disent que oui. Bon, ce faisant, c'est quand même assez dangereux quand
J'allais
même.
J'allais dire, hein. À éviter, même si vous voulez. Tester une fois, pourquoi pas, mais
voilà, c'est ça.
Pourquoi c'est risqué? Parce que laisser stagner les urines, c'est jamais bon, en fait.
D'une part, ouais. Et puis il se passe quand même, pendant les rapports sexuels, il se passe quand même pas mal de choses, surtout quand la femme a un orgasme, donc il y a une contracture musculaire qui est très importante, qui va augmenter la pression à l'intérieur de la vessie, et si elle est déjà pleine, c'est pas un bon plan. Donc il faut trouver d'autres moyens de booster ses orgasmes.
C'est une info, mais c'est pas forcément à tester. On revient à notre sujet, la cystite. Est-ce qu'elle peut arriver chez des femmes qui se retiennent un peu trop de faire pipi? On dit ça aux petites filles, ne te retiens pas à faire pipi pour éviter les cystites et pour d'autres raisons. Il faut faire pipi combien de fois par jour d'ailleurs dans l'idéal?
Il faut y aller quand on a envie.
Il y en a beaucoup, elles font pipi le matin et puis le soir.
Voilà,
hein, mais
il
non,
faut y aller quand
ça.
On a envie. Hein. Et quand on a envie, comme je vous l'ai dit, le cerveau il est informé en permanence de cette envie d'uriner. Quand on ressent l'envie, surtout quand on a des antécédents de cystite à répétition, il ne faut pas se retenir. Et pourquoi il ne faut pas se retenir? Parce que l'urine contient effectivement des bactéries, on l'a dit, et plus l'urine est concentrée, et plus il y a de risques de développement de ces infections. Donc oui, il faut vider sa vessie, la vider quand on a envie. Il n'y a pas de règle, mais il faut le faire quand on a envie.
On parle de cystite depuis tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler 2-3 symptômes simples pour celles qui n'auraient jamais eu de cystite? Quels sont les signes qui doivent nous inquiéter?
C'est des brûlures en urinant, c'est des douleurs dans la vessie, c'est des envies d'uriner, on va faire pipi pour 3 gouttes. Parfois, il y a du sang dans les urines, alors ça inquiète beaucoup les femmes, mais ce n'est pas un critère de gravité. Il faut bien expliquer aux femmes, elles arrivent paniquées en disant « j'ai du sang dans les urines, donc ça doit être beaucoup plus grave ». Non, c'est tout à fait logique quand on a une infection d'avoir du sang. Donc, brûlures en urinant, envie d'uriner tout le temps, et on fait 3 gouttes et on a mal dans la vessie.
Très bien. Docteur Bobot, ne bougez pas, on va continuer cet entretien passionnant dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous et il nous accompagne toujours cet après-midi. C'est vous, docteur Jean-Marc Bobot. Vous êtes médecin infectiologue spécialiste des infections génito-urinaires à l'Institut Fournier de Paris. Et on va passer donc au traitement parce que je suis sûre que nos auditrices attendent ça avec impatience et même à la prévention. Mais avant ça, pour nous aider à comprendre ce qui se passe quand il y a une infection urinaire, d'où viennent le plus souvent les microbes en cause finalement?
Alors, la majorité des infections urinaires sont dues à un microbe qui s'appelle le colibacille, qui, comme son nom l'indique, vient du côlon. Donc, souvent, c'est lié à un déséquilibre de la flore intestinale. Et bien souvent, ce sont des femmes qui sont constipées chroniques, ou des femmes qui ont des problèmes de ballonnement. Et donc, il y a énormément de femmes qui ont ce genre de problème. L'ennui, c'est qu'effectivement, on pose rarement la question chez une femme qui a une cystite, est-ce que vous êtes constipée, est-ce que vous avez des ballonnements? À partir du moment où il y a ce type de symptômes de manière chronique, il y a une modification du microbiote intestinal, une augmentation du nombre de colibacilles. Et ces colibacilles, parce que, encore une fois, l'anatomie de la femme est magnifique, mais il y a des petites faiblesses, l'anus, il n'est pas très loin du vagin non plus. Et donc, quand il y a beaucoup de colibacilles dans l'intestin, bah, ils arrivent au niveau de l'anus et ils vont glisser directement dans le vagin.
On s'auto-contamine, en fait, hein, c'est ça. Hein,
c'est ouais. ça. Mmh. Alors, deuxième étape, le vagin, il doit jouer un rôle de sas. Donc, si le vagin est bien équilibré, bah, ces colibacilles, ils vont tout de suite être bloqués et puis il ne se passera rien. Par contre, si le vagin est déséquilibré, bah, là, effectivement, les colibacilles vont continuer à se développer. Et au premier rapport sexuel venu, ou même sans rapport sexuel, ça va gagner le méa urinaire.
Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour savoir si on a un vagin bien équilibré ou déséquilibré ?
Alors, d'une part, il y a parfois des symptômes. C'est souvent des femmes qui ont des pertes malodorantes, qui ont des douleurs lors des rapports sexuels. Il faut savoir, par exemple, qu'une femme, et ça, c'est vraiment des choses qu'il faut vraiment étudier et poser la question, une femme qui a des cystites à répétition, souvent, elle a moins envie de faire l'amour, et donc, elle a moins d'excitation. Donc, elle a une plus grande sécheresse lors des rapports sexuels. Donc, elle a un vagin qui est plus irrité, qui se défend moins. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc,
un vagin mal hydraté, entre guillemets.
Exactement.
C'est un vagin
et donc, il y a moins de défense à ce niveau-là. Donc, soit la femme, elle a des douleurs lors des rapports sexuels, soit elle a une sécheresse vaginale, soit elle a des pertes, et parfois, elle a un déséquilibre de la flore et elle ne s'en aperçoit pas. Et à ce moment-là, c'est au médecin de faire un examen très simple. Il suffit de mesurer l'acidité vaginale avec un simple papier pH et on sait tout de suite si le vagin est déséquilibré.
Et donc, parfois, les antibiotiques qu'on a longtemps prescrits à répétition chez ces femmes concernées par la cystite, en fait, j'imagine qu'ils ont fait finalement ces antibiotiques qu'aggraver les choses de cette dysbiose, parce qu'on sait que trop d'antibiotiques, ça abîme le microbiote.
Ben vous avez raison, Mélanie, c'est normal qu'on donne des antibiotiques quand c'est utile. Mais la répétition des traitements antibiotiques, ça va amener tout simplement à déséquilibrer davantage. Et donc, encore une fois, on va repartir sur une infection récidivante.
Vous écrivez que les femmes en disent parfois plus que leurs analyses et que le bilan peut être normal, mais qu'il ne faut pas oublier de parler de tous les symptômes, y compris les plus gênants et qui sont parfois les plus révélateurs.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il faut pas, il faut d'abord mettre très à l'aise les femmes parce qu'il ne faut pas focaliser la consultation sur la vessie, bien leur expliquer que, et souvent elles comprennent bien, et c'est là où on pourra introduire par exemple la notion de stress, quand on aura bien expliqué que tous les microbiotes sont totalement dépendants de l'état général de la femme.
Vous dites dans votre livre, hein, n'hésitez pas, mesdames, signaler une odeur de poisson pourri, signaler des pertes grisâtres. C'est pas sexy comme ça, mais ça peut être très utile
mais
pour
vous,
pour nous guérir. Hein.
Les douleurs lors des rapports sexuels, une sécheresse vaginale, une mauvaise odeur.
Vous avez écrit odeur de poisson pourri, hein, j'ai lu.
Oui, mais non, mais bien sûr, en anglais, on dit fishy odor, c'est plus sympa.
C'est ça,
mais bon, donc là, effectivement, c'est ça. Donc il ne faut pas hésiter à en parler. Et puis je pense qu'il faut vraiment éduquer aussi les médecins
que la
prescription automatique d'antibiotiques pour une cystite, bah non, c'est pas comme ça que ça se passe. À un moment, il faut se poser la question.
Pour une cystite spontanée comme ça, une fois aiguë, ça suffit, ça va, mais quand c'est répétitif, non.
Bah, d'ailleurs, souvent, moi, je dis à des femmes qui présentent des cystites, quand elles vont partir en vacances, je leur donne une ordonnance d'antibiotiques d'avance, hein, parce que comme ça, qu'elles ne soient pas démunies.
Pour la crise, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais il n'empêche quand même qu'il faut faire un travail en profondeur et puis essayer de comprendre.
Un travail qui peut prendre plusieurs mois en plus, hein, c'est ça.
Ça peut prendre plusieurs mois parce que pour rééquilibrer des microbiotes, ça ne se fait pas en 8 jours.
Alors, vous avez dit que les antibiotiques ne sont pas systématiques, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand on a une cystite ? Boire pourrait suffire ?
Alors, boire peut suffire. Il faut dire qu'on peut prendre des anti-inflammatoires comme de l'ibuprofène, par exemple, mais que c'est symptomatique et ça ne guérit pas l'infection. Et ça, c'est très important. Hein. Il y a des femmes, elles disent bon, finalement, avec l'ibuprofène, j'ai moins mal. Attention, hein, l'infection
c'est pas guéri.
Est toujours
moins de symptômes,
là.
C'est
et
tout.
Il peut y avoir effectivement des complications ultérieurement. Donc, il faut faire un travail en profondeur. Il faut faire un travail d'éducation, c'est-à-dire qu'il faut reprendre tout ce qui est alimentaire.
Hein, alors, la boisson, juste, Dimi, vous demandez, ça veut dire quoi, boire beaucoup ?
Boire beaucoup, c'est pas boire 3 litres par jour, c'est boire 1 litre et demi, c'est boire quand on a soif.
Plus, c'est pas bien, 3 litres, c'est pas bien.
Ça sert pas à grand chose. D'accord. Ça sert pas à grand chose. 1 litre et demi, ça suffit.
Vous donnez un petit conseil dans votre livre aux femmes pendant la crise, hein, pour la gérer, cette crise, vous l'avez dit, là, bon, il y a l'ibuprofène éventuellement, mais vous leur dites de se faire pipi dans une bassine d'eau.
Oui, alors avant c'était dans les
c'est
bidets.
C'est une petite astuce ça, mais
c'est
bien.
Mais il n'y a plus de bidets maintenant dans les appartements.
Ça soulage vraiment, ça permet de faire pipi quoi, c'est
ben
ça.
Oui, il faut remplir le bidet ou la cuvette d'eau tiède et ça permet de diminuer l'irritation quand on urine. Donc,
système D, mais ça soulage.
Bah oui, ça soulage.
Ouais, c'est pas mal, mais au bout de combien de temps, si jamais avec ce petit système D, ben ça ne passe pas, on se dit bon, bah là on n'a pas le choix, il va falloir passer par la case antibiotique ou éventuellement consultation médicale.
D'abord, l'examen d'urine au laboratoire n'est pas obligatoire. Maintenant, on fait des tests à la bandelette quand on va chez le médecin, ou la femme peut même acheter des tests en pharmacie.
Ils sont fiables, les petites bandelettes qu'on achète pour nous à faire à la maison.
Dans 80-90% des cas, ça marche bien. Et puis, vraiment, si ça ne marche pas, avec les petits moyens, bah, à ce moment-là, il faut aller chez son médecin assez rapidement.
Un jour, deux jours, parce que souvent, elles craignent, lorsqu'elles laissent traîner la cystite, entre guillemets, c'est que ça remonte au niveau des reins et que ça donne une pyélonéphrite. Du coup, on se laisse quoi, 24-48 heures.
24-48 heures, pas plus.
Si on est dans le cadre d'une cystite vraiment récidivante, hein, des choses qui reviennent plusieurs fois par an, là, la marche à suivre, elle est un peu différente ou on prend quand même le petit sachet minute là, de l'antibiotique ?
Alors, l'idéal, c'est effectivement de mettre en place un traitement qui est un traitement qui va permettre de réparer les microbiomes.
Un traitement de fond, ça.
Fond. Et donc, ça va prendre plusieurs mois parce que ça ne marche pas de manière automatique. Donc, effectivement, il faut quand même accompagner la prescription de probiotiques intestinaux ou de probiotiques vaginaux ou d'autres produits, en particulier. On a des sucres comme le
démanose. C'est des probiotiques comment qu'on prend par la bouche ou qu'on met dans le vagin d'ailleurs ?
Pour l'intestin, c'est par la bouche.
Oui.
Pour le vagin, on les met dans le vagin.
Il y a des ovules, hein, c'est ça ?
Mais le problème, c'est que la Commission européenne va, à partir du mois de mai, demander que tous ces probiotiques qu'on met dans le vagin passent au stade de médicaments. Donc, grosso modo, ils vont tous disparaître.
Ah oui.
Ce qui est totalement invraisemblable. C'est une perte de chance pour les femmes. Donc je crois que la Commission européenne n'est faite que d'hommes. Et donc c'est
souvent
un véritable scandale.
Ça.
Tout ça parce qu'on met des micro-organismes vivants dans le vagin et ils pensent qu'effectivement ça doit passer au statut de médicament. Donc il faut interdire les yaourts. Hein,
puisque, oui, c'est ça. Voilà. Arrêtez,
donc c'est une stupidité notoire. Pardonnez-moi pour les membres de la comité du
c'est
comité européen.
C'est le petit
européen.
Coup de gueule de l'après-midi.
Voilà.
Quid de la canneberge, le cranberry qui est très à la mode. Certaines femmes ne jurent que par ça. D'autres affirment que ça ne sert strictement à rien. Où se trouve la vérité ?
Bah, elle se trouve, comme d'habitude, au milieu. Les choses sont ni blanches ni noires, mais gris clair ou gris foncé. Donc il y a des méta-analyses qui ont montré que la canneberge pouvait servir, mais que ce n'était pas un traitement miraculeux. En trépas, ce n'est pas un traitement de la cystite.
De la crise, oui, c'est
voilà,
ça.
Ça peut être utilisé en prévention. Et donc moi, j'ai tendance à dire qu'il faut l'associer aux probiotiques. C'est-à-dire que les probiotiques, ça va restaurer un microbiote, donc ça va empêcher la multiplication des colibacilles. Et par contre, quand on associe en même temps du cranberry, on va empêcher la fixation de ces colibacilles. Donc on a un double effet, c'est l'effet qui se coule.
Enfin, le dernier pilier de la prévention de la cystite, c'est l'activité physique. Mais comment est-ce que concrètement, le fait de bouger pourrait éviter d'avoir une infection urinaire ? On aurait tendance à dire, on bouge, on transpire, on a une cystite.
Ouais, c'est vrai.
Eh ben non. Il est démontré, alors ça c'est l'amélioration des microbiotes. On a démontré que faire de l'exercice physique, ça améliore le microbiote intestinal parce qu'on diminue la masse graisseuse, on augmente la masse musculaire, parce qu'on s'oxygène davantage. En s'oxygénant, on permet aux bonnes bactéries de se développer. Donc, on va améliorer son microbiote. Ça avec un régime alimentaire.
Anticonstipation, hein, c'est ça.
Anticonstipation ou anti-ballonnement. Ouais. Hein, donc, ça, c'est des régimes qu'il faut.
On voit que c'est global, hein, la prise en charge de la prévention
et
de la cystite.
Oui, voilà.
Hein,
donc, une femme ne se résume pas à une vessie. Il y a tout un ensemble de choses autour et il faut savoir en parler.
Très bien. Et vous en parlez très bien. Merci beaucoup, docteur Bobotte, d'avoir répondu à nos questions. Alors, pour en savoir plus, je ne peux que rappeler votre livre, La cystite, le cauchemar au féminin, coécrit bien sûr avec la journaliste Rika Etienne chez Flammarion. Merci encore, docteur.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Bien-être Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Très heureux de vous accompagner tous les après-midi. Et à présent, on va passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Focus sur les sinus. Ah, ça rime en plus, c'est génial. Focus sur les sinus. Savez-vous, ils sont situés précisément dans le corps, ces sinus. Savez-vous combien on en a d'ailleurs et pourquoi ils se bougent parfois ? C'est quoi d'ailleurs une sinusite ? C'est quand ça se bouge ou pas ? Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous poser quelques-unes de ces questions. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Alors, les sinus, je crois que c'est dans le nez.
C'est ce qui part du nez, enfin, c'est le tuyau du nez qui remonte, j'irai vers l'œil, parce que je sais que les larmes, je crois, viennent des sinus.
Oui, une cavité creuse qui sont au-dessus des mâchoires supérieures et en dessous des cavités oculaires.
Après, ça doit descendre dans la gorge aussi, parce que il me semble que les tests Covid, PCR, ça passe dans les sinus.
En fait, c'est au niveau des joues, parce que tout est bouché quand on touche avec son doigt sur les pommettes, on va dire. Ça fait très très mal, on a la tête qui fait très très mal. Il y a une sensation de casque, en fait, qui est pris au-dessus des sourcils.
C'est une infection qui prend origine dans les sinus ou qui prend origine dans les voies ORL et qui se propage aux sinus.
La cause au départ, c'est soit un virus, soit un coup de chaud froid, c'est je dirais c'est ce que d'expérience qui m'arrive le plus souvent.
C'est le problème de sinusite et ça fait très très mal, surtout quand on a les sinus qui sont bouchés.
Alors Jimmy, un sinus d'abord c'est quoi? Je crois d'ailleurs qu'il n'y en a pas que sur notre visage. Parce que moi je pense au nez, enfin au-dessus de mes joues, là, de mes yeux, mais c'est où en fait les sinus?
Oui,
c'est
les
quoi
plus connus c'est les sinus de la face, ce sont des cavités qui vont être creusées dans l'os et qu'on connaît assez bien, mais vous en avez dans plein d'autres parties du corps. Vous en avez dans les reins, le sinus rénal, puisque dans certains vaisseaux sanguins on peut avoir des sinus vu que c'est une cavité. Et vous en trouvez aussi dans d'autres vaisseaux, mais aussi au niveau de vos fesses. Vous avez le sinus pylonidal.
Ah ouais, j'avais un sinus dans mes
exactement
fesses.
Et donc il peut y avoir une petite touffe de poils qui va pousser dans cette cavité, et cette cavité peut s'inflammer et donner des douleurs assez insupportables.
Très bien, merci pour tous ces détails. Ouais. On va se concentrer sur ceux du visage, on va laisser ceux des fesses pour une prochaine fois. Combien on en a sur la face et ils servent à quoi? Est-ce qu'ils servent à quelque chose d'ailleurs?
Alors, on a 4 paires de sinus, c'est-à-dire on a 8 sinus au niveau du visage. Vous en avez au niveau des maxillaires qui sont situés sous vos yeux, qui sont situés de part et d'autre au niveau de vos pommettes. Vous en avez au niveau du front, les sinus frontaux qui sont au-dessus des yeux et des sourcils. Vous avez les sinus ethmoïdaux qui se trouvent entre les deux yeux à la base du nez. Et puis à l'arrière du crâne, vous avez les sinus sphénoïdaux. Donc vous avez vu, on a plein de trous. Et par contre, on ne sait pas trop à quoi ça sert.
On
a
dit que c'est on sait que cavités. Ça se bouche en tout cas. Ça se bouche. Dans quelles circonstances ça se bouche d'ailleurs? Il faut être malade. Et on peut avoir les 8 bouchés ou...
Eh oui, on peut avoir les 8 bouchés. Tous les trous de la face qui peuvent être bouchés. On appelle ça une pansinusite. Ça fait terriblement mal. Le diagnostic à ce moment-là, c'est au scanner. Parce que pour aller voir les sinus dans l'arrière du crâne, c'est compliqué. Sûr. Et dans l'immense majorité du temps, la sinus survient dans un contexte de rhume. Vous avez le nez pris, vous êtes enrhumé, vous méprisez ce rhume, vous dites bon, c'est pas très grave, vous avez le nez bouché, vous ne pouvez rien faire. Et au bout de quelques jours, les sécrétions vont s'accumuler dans ces sinus qui normalement sont remplis d'air, elles sont censées aérer. On sait pas trop à quoi ça sert, mais peut-être ça peut humidifier en quelque sorte les fosses nasales, changer la résonance
la
de
VMC
la voix.
De...
Exactement, de la VMC est bouchée et donc on a une sinusite quand on a un rhume.
J'allais vous dire, c'est ça, donc la sinusite c'est bien quand c'est bouché, c'est pas juste aussi quand il peut y avoir une inflammation finalement de ces sinus.
L'inflammation va conduire au fait que ça va être bouché, puisque d'accord, normalement il y a un conduit qui va relier vos fosses nasales au sinus et ce conduit peut être irrité, inflammé par le rhume et à ce moment-là l'air passe moins bien, ça bouche et ça fait mal, la sinusite.
Est-ce que c'est très fréquent la sinusite et quels sont les symptômes? Vous disiez ça fait mal, on le sent forcément quand on a une sinusite, enfin j'imagine que ceux qui connaissent ça le savent, mais pour les autres, comment on reconnaît ça?
On passe rarement à côté d'une sinusite, je vous ai dit c'est dans un contexte de rhume et au bout de quelques jours vous avez des maux de tête assez terribles, les gens ont envie de se cogner la tête contre le mur, ils ont la tête, le nez complètement bouché, ils ont souvent de la température et puis un petit signe très simple, lorsque vous penchez la tête en avant, si ça augmente vos douleurs,
c'est
et
pour
bien,
ça c'est que le médecin nous fait faire ça
à
l'examen.
C'est pas parce qu'il aime bien faire des acrobaties, c'est parce qu'il sait que lorsque vous penchez la tête en avant, vous allez augmenter la pression dans les sinus et si ceux-ci sont bouchés, eh bien à ce moment-là, vous avez plus mal à la tête. Et donc là, le diagnostic est fort. Madame, vous avez une sinusite.
D'accord. Alors dans les grandes lignes, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, Jimmy, comment ça soigne la sinusite? Bon, pas la chronique, on va dire la sinusite aiguë.
Alors, il faut essayer de laver le nez au maximum, de le rincer avec de l'actisoufre, par exemple. Parfois, on propose des anti-inflammatoires et lorsque ça ne passe pas, eh bien, on prescrit des traitements antibiotiques pendant plusieurs jours. Car les antibiotiques, ce n'est pas systématique, mais parfois, ça peut aider.
Ça peut déboucher la sinusite. Merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions et ces conseils plus qu'utiles, comme toujours.
Sans rendez-vous sur Europe 1.
La santé, le bien-être et l'amour, c'est sur Europe 1. J'adore dire l'amour parce que finalement, on revient toujours à l'amour. On parle beaucoup de sexo, on dit la chronique sexo, mais on parle souvent de sentiments amoureux
plutôt. Et n'enlevons pas justement le sentiment amoureux, sinon nous ferions une chronique cul.
Allez, très bien. Donc c'est la chronique amour de Catherine Blanc. Catherine, aujourd'hui, il va falloir répondre à la question d'Antonin. Je vous la lis. Ça va faire 4 ans que je suis avec ma copine. Et pour pimenter notre vie de couple, on a décidé de franchir un cap, de nous filmer et nous photographier lors de nos rapports sexuels. C'est pas très amour aujourd'hui, c'est assez concret quand même. N'est-ce pas trop osé et risqué? Est-ce qu'à long terme, cela pourrait nuire à notre relation? Alors Catherine, verdict. Les vidéos, je sais pas, on dit pas amoureuses, mais concrètes quoi. Enfin, je sais pas comment appeler ça.
Alors déjà,
Le Benjamin dans l'oreille.
En tout cas, déjà dans cette question, nous avons décidé de passer un cap. C'est quoi cette idée qu'il faut passer
des caps? Je ne connaissais pas ce cap, personnellement.
Voilà,
c'est
comme si on avait peur que ce que nous vivions ne soit pas suffisamment de qualité. Et on cherche à pimenter, c'est ce qu'on entend souvent, chercher à pimenter. Comme si finalement, tout était fade.
C'est bien de chercher à pimenter, ça c'est pas mal.
Oui, mais ça veut dire qu'on part du principe que la relation est fade. Ouais. Alors, jusqu'où on peut aller pour essayer de pimenter? Alors après, on s'habitue au côté un peu épicé, puis après on monte un peu plus. Et est-ce qu'on attend d'avoir carrément une brûlure d'estomac pour arrêter le piment? Voilà, donc le truc c'est que ce qui peut nuire...
Donc vous confirmez, c'est pas un cap obligatoire en 2021, la sextape?
C'est pas parce qu'on est dans le monde des réseaux sociaux, de se montrer, de se mettre en scène sexuellement, y compris les toutes jeunes filles qui sont encore prépubères, qui se sexualisent à l'excès sans être en compétence de porter cela tranquillement. Faisons attention à ce que nous faisons. nous faisons entre nous, c'est une chose. Et ce que nous gardons en mémoire, ce que nous gardons en photo, en film...
D'ailleurs, c'est peut-être pour eux, c'est pas pour diffuser. Hein. Ça, c'est, de tout temps, ça s'est fait de photographier son compagnon nu ou sa compagne nue, ou de faire des... Maintenant, on a des vidéos, mais ça, pourquoi ce besoin comme ça de se filmer, d'immortaliser ça?
Parce qu'il y a une idée de... On va regarder ce qu'on va... Ensemble, on a fait après, notre propre... On a fait une compétence, on l'a filmée, on la regarde ensemble, elle est source d'excitation.
Comme une œuvre d'art qu'on aurait fait à deux, un truc...
Voilà, mais c'est comme si on voulait pas faire confiance à notre mémoire, qu'il suffit simplement, puisqu'on peut se rappeler les choses et trouver ça extrêmement excitant. Surtout que là, il y a toujours un qui est dans la crainte potentiellement, enfin il peut y avoir en tout cas un qui a le pouvoir
sur
l'autre.
Craintive en tout cas.
Ouais. Bien sûr, parce que, et ça j'ai rencontré dans ma patientèle également, des femmes qui disaient moi je sais pas ce qu'il va en faire, il m'a dit qu'il l'avait...
Ça, si ça reste entre eux, pourquoi pas, mais on a toujours le risque que ça reste pas entre eux. Quoi, hein,
alors
entre nous.
Ça pose la question du piratage d'une part, et quand je dis piratage je parle même des enfants qui tombent dessus, comme ils tombent sur les magazines et les VHS porno et etc. Donc des parents, donc c'est déjà ça qui est assez anxiogène. Et puis aussi il y a après soi. Imaginons demain je meurs, est-ce que j'ai envie que ce qui se passait de ma vie reste derrière moi? Je suis pas sûre. Et puis se pose aussi la question de la fiabilité de l'autre dans son excitation, c'est-à-dire dire comme on peut se raconter des trucs entre copains et copines, pourquoi pas se montrer aussi des trucs entre copains et copines au prétexte que ce sont des copains et des copines.
Et donc, pire, il y a la revanche aussi, enfin il y a la revenge porn comme on dit, hein, n'est-ce pas Benjamin qui me souffle encore à l'oreille. Si un jour cette relation s'arrête, il y a eu des cas hein, comme ça de sex tape dévoilé après coup pour par vengeance quoi.
C'est ça, pour nuire complètement ou détruire l'autre, sans parler, même si on ne parlait pas de sexualité, faire avec le corps de l'autre, on n'est pas tous très tranquilles avec son corps, ce que devient son corps, est-ce qu'on a besoin qu'il soit exposé comme arme contre soi-même? Donc je trouve que nous avons des yeux pour voir et une mémoire pour enregistrer, c'est ça notre caméra, on n'est pas obligé de le mettre sur une caméra. On peut s'amuser, jouer de « je te filme », etc. Est-ce que la réalité de garder ça est importante? Ne nous faisons pas avoir dans ce monde.
Donc vous ne cautionnez pas trop ce genre d'activité, quoi, de filmer, de garder? Ou alors est-ce qu'il y a des précautions peut-être à prendre? Faire attention qu'il n'y ait pas les têtes, les visages au moins, enfin, je ne sais pas.
Déjà, moi je trouve que poser la question, c'est est-ce que ce n'est pas dangereux? Ça veut dire donc qu'elle considère
que c'est dangereux,
que ça l'est. Et que donc on a décidé, qui a décidé, qui a suivi la décision de l'autre? Je crois que si elle pose la question, c'est qu'elle n'est pas à l'origine de ça. Donc, on est déjà dans quelque chose qui est déséquilibré. Qu'on s'en amuse, c'est une chose. Qu'on ait peur après de voir... Quand on est en train de faire l'amour, on est en train de faire l'amour. Tout à l'heure, on le disait, on parlait des sentiments. On est aussi porté par le sentiment, même s'il n'est pas amoureux, le sentiment de l'instant, de la liberté, de la tranquillité. De là à me voir objectivement avec des vraies fesses, un vrai ventre, des vraies cuisses, avec un vrai regard, des yeux qui révulsent, des sons. Ce n'est pas la même chose. Dans la situation, on vit les choses portées par nos émotions. Quand on est spectateur, c'est pas du tout la même chose.
Donc vous lui déconseillez, j'ai l'impression, de franchir le cap quand même. Hein.
Ça s'apparente du coup potentiellement à la pornographie qui peut faire un sentiment d'inquiétude et de culpabilité. Maintenant, si tout le monde est tranquille, liberté, liberté chérie.
Très bien, merci beaucoup Catherine pour ce décryptage très intéressant. Je vous dis donc à demain, portez-vous bien en attendant. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Alors la tour Eiffel qui n'est pas très loin de chez nous, elle a changé leur vie. Je ne sais pas si elle a changé la vôtre, mais en tout cas Gustave Eiffel, évidemment, ça a changé sa vie.
Forcément.
François, il s'appelait à l'origine Franz Reichelt.
Qui est-il?
C'est un garçon de Bohème qui un jour a eu l'idée, il travaillait, il était tailleur pour dames, il a eu l'idée de faire un parachute et de faire le saut
ça
lui-même.
Ça a marché?
Ben, il est mort.
Oh oui, ça a moyen marché alors. Bah, moi, je me parlais, vous savez, il y a beaucoup de gens qui se marient devant la Tour Eiffel, qui se prennent en photo, en tenue de mariage comme ça devant la Tour Eiffel. Et bien, moi, j'ai rencontré une femme qui s'appelle Erika, et elle s'appelle Erika Eiffel. Et elle ne descend pas de Gustave Eiffel, et donc, elle s'appelle comme ça parce qu'elle s'est mariée à la Tour Eiffel. Comment c'est possible?
Ça a dû être compliqué.
Je vous en prie.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Nous serons à l'écoute, et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.